Un petit sondage avant de commencer. Qui connaît l'anthroposophie?
Oui, ils sont des bons élèves.
Alors, autre question. Qui connaissait l'anthroposophie avant octobre de l'année dernière? D'accord. Alors, oui, je vais essayer de vous présenter un petit peu l'anthroposophie et mon rapport avec elle. L'anthroposophie, j'ai honte hein, de ma présentation après la qualité des PowerPoint qui m'ont précédé, mais voilà, je fais ce que j'ai pu. Alors, l'anthroposophie, c'est le mot qui regroupe un certain nombre d'activités que, par contre, vous avez peut-être déjà rencontrées, comme les produits Velleda dans les pharmacies, comme la banque Nef, dont on entend régulièrement parler à la radio, parfois même dans certaines émissions « Nouvelle économie fraternelle ». Mais il n'y a pas que cette banque qui est liée directement ou indirectement à l'anthroposophie. Il y a également GLS, qui est une banque qui finance tout le réseau éolien. Et puis la banque Triodos, qui est également une banque importante. Vous n'avez pas seulement les produits Velleda, que vous trouvez dans presque toutes les pharmacies. Vous avez aussi les produits Vala, Oshka, qui sont également issus de l'anthroposophie. Vous avez l'agriculture biodynamique, qui est également quelque chose de très connu, en particulier en viticulture, mais pas seulement. Il y a eu dernièrement, dans le journal du ministère de l'Agriculture, une apologie de l'agriculture biodynamique. C'est dire à quel point c'est quelque chose qui est répandu sans être connu. Et vous avez le réseau des écoles Steiner-Waldorf. Et moi, si j'en parle de l'anthroposophie, c'est parce que j'ai été élève d'une école Steiner-Waldorf, puis anthroposophe, puis pédagogue, entre guillemets, professeur d'une école Steiner-Waldorf. Ma présentation de l'anthroposophie ne doit pas s'arrêter là, parce que ça, c'est ce que j'ai mentionné, c'est ce qu'il y a de plus en vue, mais vous avez également des arts anthroposophiques, il y a des instruments de musique anthroposophiques, il y a l'eurythmie, qui est une espèce qui est présenté comme une expression corporelle spécifique, alors qu'en fait c'est quelque chose qui a un rapport au sacré, qui a une fonction sacramentelle dans l'anthroposophie. Dans les écoles Steiner-Waldorf, on fait faire aux élèves de l'eurythmie en disant aux parents c'est une expression corporelle, alors qu'en fait c'est une espèce d'art du mouvement qui a des présupposés anthroposophiques qui sont transmis aux élèves à l'occasion de cette pratique. Vous avez un théâtre anthroposophique, vous avez tous les domaines de l'art, on trouve dans tous les domaines de l'art des arts anthroposophiques. Il y a une peinture anthroposophique avec des codes spécifiques. Il y a du dessin anthroposophique, il y a du modelage anthroposophique, de la sculpture anthroposophique, etc., etc. Tous les arts peuvent être anthroposophisés, puisque la caractéristique du geste anthroposophique, c'est de s'emparer de ce qui existe pour le transformer en quelque chose d'anthroposophique. Vous avez des cultes chrétiens anthroposophiques. C'est un mouvement qu'on appelle la communauté des chrétiens, où vous pouvez assister à une messe, mais cette messe a été anthroposophisée. C'est-à-dire que la messe a été réécrite, transformée par Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, en une messe chrétienne anthroposophique. Vous
pouvez avoir la même chose avec un culte musulman, avec un culte bouddhiste, etc.
Si c'est pas fait, ça va se faire. Tout peut être anthroposophisé. Ça va jusqu'aux arts, mais aussi aux techniques. Il y a un béton anthroposophique avec des ingrédients spéciaux, des mélanges homéopathiques qui sont diffusés dans le béton pour que le béton ait des bonnes ondes, etc. Et j'ai vu récemment qu'il y a du skinotique anthroposophique. Alors, évidemment, ça prête à sourire, mais regardez le potentiel de cette chose. C'est-à-dire tout dans la vie peut être anthroposophisé. J'ai déjà dit dans un autre contexte, mais il y a aussi une sexualité anthroposophique. Anthroposophie, le mot.
Les arts anthroposophiques, le béton, la sexualité, c'est un objectif concret. La biodynamie, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques magiques.
Oui, je vais y venir petit à petit parce qu'il faut que je vous expose la doctrine pour que vous compreniez que c'est une doctrine qui va se concrétiser d'une certaine manière qui est reconnaissable. Vous avez une architecture anthroposophique et cette architecture. Vous pouvez voir qu'elle est anthroposophique. Quand vous connaissez la doctrine, vous dites « Ah oui, ça correspond à tel ou tel point de la doctrine. » Par exemple, l'architecture anthroposophique, c'est éviter les angles droits. Les angles droits, c'est mauvais, c'est l'expression d'une force maléfique qui s'appelle Ahriman. Bon, donc, parce que tout ce qui est angle droit a un rapport avec ce qui est carré, et ce qui est carré, c'est l'expression de ce diable qui s'appelle Ahriman. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous voulez faire une architecture anthroposophique? Vous enlevez les angles droits. Les fenêtres et les portes des maisons anthroposophiques, il y a des maisons anthroposophiques avec des architectes anthroposophes qui font des maisons anthroposophiques, vous rentrez dedans, vous avez intérêt à faire attention à l'angle de la porte pour ne pas vous cogner la tête dans l'angle qui a été coupé volontairement pour qu'il n'y ait pas d'angle droit. Pareil pour les vitres, les fenêtres, etc. Donc ça serait trop long pour vous expliquer en détail pour chaque chose comment la doctrine anthroposophique se répercute sur ces éléments-là. Peut-être un... Merci beaucoup. J'avais oublié, il y a une médecine anthroposophique qui va d'ailleurs avec les produits Velleda. Il y a des hôpitaux anthroposophiques, des cliniques anthroposophiques.
Il y a tous les métiers.
Il y a tous les métiers et s'il en manque, ils peuvent être créés. C'est pas un problème.
Il y a des politiques anthroposophiques.
Alors, c'est l'influence de l'anthroposophie dans le monde moderne. L'anthroposophie est très très présente dans l'écologie, dans les mouvements politiques écologiques. Pierre Rabhi. Mais aussi Pierre Rabhi, Cyril Dion, le mouvement des colibris. Alors, je ne dis pas que le mouvement des colibris est de l'anthroposophie. Je dis que dans le mouvement des colibris, il y a des anthroposophes. Voilà. C'est un peu pareil pour la Nef. Alors, la Nef, ils m'ont menacé de procès, eux aussi. Oui, j'ai trois procès en cours avec l'anthroposophie. Donc, la Nef m'avait aussi menacé de procès en disant « Mais pas du tout, nous ne sommes plus du tout des anthroposophes. Nous avons certes été fondés par deux anthroposophes et le noyau originel de la Nef était composé d'anthroposophes. Mais alors, maintenant, vu le nombre de sociétaires, l'influence s'est complètement diluée. Nous n'avons plus rien d'anthroposophique. » Alors, moi, d'une part, c'est pas ce que j'entends quand j'entends les discours des dirigeants de la Nef. La présence de la doctrine anthroposophique avec une autre terminologie, moi, je l'entends, d'une part. Et d'autre part, je sais très bien, d'expérience, que les anthroposophes n'ont absolument pas besoin d'être majoritaires dans une institution pour la diriger, ni même aux commandes de cette institution pour la diriger.
parce que ils savent très très bien placer une ou deux personnes au bon endroit, et ça donne la direction du mouvement sans que cette personne ait nécessairement une casquette officielle de dirigeant.
NEF,
Nouvelle Économie Fraternelle. D'ailleurs, dans le sigle, hein, NEF, c'est aussi la nef de Noé, parce que nous serions à la veille d'une catastrophe économique mondiale dont la nef, avec ses principes d'économie fraternelle, pourrait permettre à l'humanité de traverser cette crise pour fonder une nouvelle économie suite à ce déluge économique qui submergera la Terre entière. Vous voyez, mais ça, c'est évidemment pas quelque chose qu'ils vont dire. Sauf qu'à l'origine, ça a été pensé comme ça.
Donc vous avez été un proposant malgré lui.
Alors, mon parcours à moi. J'en suis fait garder mon plan. Alors, d'abord quelques éléments de la, quelques éléments de la doctrine pour que vous compreniez ce que c'est. C'était très drôle pour moi, très drôle entre guillemets, le 9 juillet, il y a eu deux des trois procès en cours, et je me retrouve devant le juge qui me demande Monsieur Perra, résumez-nous la doctrine anthroposophique en quelques mots. Bon, oui, sauf qu'il y a juste 60 livres et plus de 6000 conférences à résumer, monsieur le juge, donc je vais essayer. Sans la caricaturer, je vais essayer d'en dire quelques mots. Pour l'anthroposophie, le système solaire tout entier se réincarne. Pas seulement la Terre, mais le système solaire dans son ensemble est une espèce de gros être vivant qui se réincarne. Il s'est déjà réincarné 4 fois. La Terre est l'élément central, l'espèce de noyau de ce système solaire dont les planètes et le Soleil se sont détachés au cours du temps. Hein, le Soleil, pour les anthroposophes, était quelque chose qui était interne à la Terre et qui s'en est détaché pour aller plus loin. Pareil pour la Lune et pareil pour les autres planètes. Tout ça, à l'origine, était un tout qui s'est divisé et qui se réunifiera plus tard. Quand la Lune bientôt se réunifiera avec la Terre, alors la substance nocive contenue par la Lune, toutes les roches lunaires, provoqueront le fait que sur Terre, il y aura naissance d'araignées géantes maléfiques qui tisseront des toiles maléfiques dans le ciel et qui entraîneront par cette action la perdition de nombreuses âmes humaines. Mais heureusement, plus tard encore, le Soleil se réunifiera avec la Terre, et là, par contre, ce sont des forces bénéfiques qui aideront au progrès de l'humanité. Je vous dis toutes ces conneries en étant parfaitement conscient de leur nature, mais si je ne vous les dis pas, vous ne réaliserez pas dans quoi on vit quand on est anthroposophe. On voit réellement les choses de cette manière. Les hommes se réincarnent, pas seulement le système solaire, les hommes, donc la notion de karma. Le Christ est une entité cosmique descendue du Soleil pour s'incarner dans le corps de la Terre. Nous sommes entourés d'esprits, des éléments qui font pousser les plantes et avec lesquels on peut discuter, on peut avoir des échanges, on peut commercer si on est attentif, si on arrive à les percevoir par le biais de la clairvoyance que Steiner nous invite à développer en méditant les exercices qu'il a donnés dans plusieurs de ses livres comme l'initiation ou science de l'occulte. Après il y a plein de choses complètement fantaisistes, loufoques, complètement anti-scientifiques qui prêtent à hurler de rire, hein. Je peux en citer quelques-unes, par exemple sur la Lune, il y a des gnomes hurleurs qui sont semblables à des enfants de l'âge de 9 ans et qui hurle en permanence, ne me demandez pas pourquoi. Mars est une planète liquide, sur cette planète liquide, le Bouddha est venu s'incarner en l'an 1406, je crois, et il a sauvé Mars, parce que Mars étant une planète guerrière, comme le Bouddha, qui est le seigneur de la paix, est venu s'incarner sur Mars, et bien ça a sauvé la planète Mars.
Comme vous en enseignez.
Oui, oui.
Et que vous avez retransmis.
Donc, oui. D'accord. Sur la planète Mars, il y a des hommes sans os, sans squelette, qui se font la guerre continuellement. Voilà. Bon, ce n'est qu'un exemple de ce genre de vision qui peuple l'imaginaire des anthroposophes quand on vit dans l'anthroposophie. Alors, vous pouvez vous demander, mais comment ça se fait que des gens puissent adhérer à des choses aussi stupides, à la abracadabrantesque, etc. Alors moi j'ai une excuse, j'ai été dans une école Steiner-Waldorf. Et dans une école Steiner-Waldorf, on vous prépare à ce genre de croyances. Donc je ne me sens pas coupable par rapport à ça, mais la question reste entière par rapport aux gens qui y adhèrent, quand ils ont 30 ans, 40 ans, qui plongent dans cette doctrine et puis qui se mettent à y croire petit à petit, progressivement, jamais brutalement. Là, je vous énonce les choses de manière absolument directe et brutale, mais jamais un anthroposophe ne fera cela. Jamais Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, ne fait cela dans ses livres. Les choses sont toujours amenées de manière à ce que vous opériez une espèce de glissement dans des croyances qui, au départ, sont acceptables, ne sont pas rocambolesques, et puis, petit à petit, on va de plus en plus loin. Parce que c'est un système aussi de croyances qui s'appellent les unes les autres. C'est comme quand vous lisez un bon roman de science-fiction. Vous découvrez une partie de l'univers qui est décrit par l'auteur, et puis petit à petit, vous avez envie de découvrir le reste de cet univers qui est cohérent avec ce que vous avez commencé à découvrir. C'est un petit peu la même chose pour l'anthroposophie, sauf que ce n'est pas de la science-fiction. Pour les anthroposophes, c'est la réalité. Un autre élément de la doctrine que je peux vous décrire, parce qu'il est important, ça c'est quelque chose dont vous entendrez moins parler, et qui est un point d'appui des anthroposophes, pour dire qu'ils sont une science. L'anthroposophie se présente comme une science du spirituel, une science de l'esprit, comme ça qu'il l'appelle, aussi rigoureuse que la science de la matière. Pour eux, il y a la science de la matière, la physique, la chimie, etc. Et il y a la science du spirituel. Et ils disent, Steiner, son originalité, c'est qu'il a été aussi rigoureux dans l'étude du monde spirituel que les scientifiques le sont dans l'étude du monde matériel. Sur quoi se base-t-il ? Sur des livres que personne n'a envie de lire, et je comprends très bien pourquoi, mais que eux brandissent et qui ont du coup une certaine aura, une certaine réputation, ce sont les écrits scientifiques de Goethe, pseudo-scientifiques de Goethe. Deux livres essentiellement, Le traité des couleurs, qui est un livre d'optique, et La métamorphose des plantes, qui est un livre de botanique. Alors, je ne vais pas résumer ces livres que j'ai lus. Les anthroposophes ne les lisent pas, ces livres. Hein. Ils les brandissent, ça leur suffit, mais ils ne vont pas les lire. Parce qu'on ne lit que Steiner. Au bout d'un moment, quand on est anthroposophe, on ne lit que Steiner. Je me souviens quand j'appartenais à la revue, la grande revue française des anthroposophes, je faisais partie du comité de rédaction. Les membres du comité de rédaction, quand moi je leur disais j'ai lu tel livre, j'ai été voir tel film, etc., ils me regardaient de haut en me disant mais nous ne lisons que Steiner, avec l'accent allemand. Et c'est, voilà, c'est comme ça qu'on devient. Alors, ces deux livres, Traité des couleurs et Métamorphose des plantes de Goethe, que disent-ils ? L'essentiel du propos de Goethe se trouve à la fin du livre, quand il est question de l'effet physique, psychique de la couleur. Pour Goethe, une couleur est un être dont vous devinez les propriétés à travers l'effet psychique qu'il induit sur vous. Par exemple, le rouge est une couleur agressive qui vient vers vous. Vous ressentez le rouge comme une couleur agressive qui vient vers vous. Eh bien, votre ressenti du rouge vous dit quelque chose de l'être spirituel du rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le sentiment devient, pour les anthroposophes, un organe de la connaissance. Quand vous faites une formation en biodynamie, les agriculteurs ont leur fait faire, les viticulteurs en biodynamie par exemple, on leur fait faire des formations à la biodynamie, eh bien on leur apprend à écouter leurs sentiments pour connaître la nature. Ces sentiments, en fait, ils sont fortement suggérés par le discours de celui qui leur apprend à écouter leurs sentiments. Mais c'est ça la méthode, c'est-à-dire faire rentrer le sentiment comme élément objectif de perception de la nature. Et le deuxième livre fondateur de la pseudo-science anthroposophique, c'est La métamorphose des plantes de Goethe. Qu'est-ce que dit La métamorphose des plantes ? Je préfère vous le dire en deux mots plutôt que vous lisiez ces horribles... c'est imbuvable, hein, ce livre. C'est que des descriptions, sauf à la fin, où enfin arrive sa thèse, c'est-à-dire toutes les plantes viennent d'une plante primordiale, la Urpflanze, d'une plante primordiale, d'un type, et ce type est, ou cet archétype, est spirituel, et il s'est modifier, singulariser en fonction des topos, des différents milieux terriens. Voilà. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que toutes les plantes viennent d'une plante spirituelle originelle, primordiale. Voilà, pour vous dire un petit mot de la doctrine. Je pourrais passer des heures, mais voilà. Je pense que c'est bien que vous ayez un petit aperçu. Mon parcours là-dedans, je vais le résumer en quelques mots. Donc moi j'ai été élève dans une école Steiner à partir de 9 ans. Mes parents cherchaient une pédagogie alternative. Ils n'étaient pas du tout dans une quête spiritualiste ou dans un mouvement spiritualiste, c'était juste une question pédagogique pour eux, de trouver une école qui la notion d'épanouissement de l'individu serait plus importante. J'y ai passé jusqu'à mes 18 ans. J'y ai subi un endoctrinement à l'anthroposophie, mais cet endoctrinement à l'anthroposophie, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il est important de dire qu'il n'est pas, il est très insidieux, il n'est pas frontal, vous ne pouvez pas vous imprégner de prémices des idées de l'anthroposophie sans que l'anthroposophie ne soit jamais mentionnée. Donc, on met en vous certaines idées de l'anthroposophie, mais sans que vous en rendiez compte et sans que vous puissiez en prendre conscience et vous dire « Ah mais non, mais ça j'y crois pas, ça je suis pas d'accord. » Vous ne pouvez pas vous opposer à ce qui vous est transmis parce qu'à aucun moment vous n'êtes face à ce qu'on vous transmet. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais essayer d'illustrer ça. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, jusqu'au bac. Il y avait aussi un baccalauréat préparé dans une des écoles Steiner où j'ai été. Logiquement, je suis devenu anthroposophe, c'est-à-dire que j'ai adhéré à la société anthroposophique. Dans la société anthroposophique, j'ai monté les, entre guillemets, les échelons, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'école de sciences de l'esprit, qui est un grade, une organisation interne de la société anthroposophique. J'ai été professeur dans une école Steiner-Waldorf, dans deux écoles Steiner-Waldorf, et puis en France. Chargé de la formation des jeunes à l'anthroposophie, quand j'étais dans la société anthroposophique, c'était une des dernières choses qu'on m'a demandé de faire, prévoir une formation à l'anthroposophie pour les jeunes. Et c'est en fait, c'est à l'occasion de la préparation de cette formation que je me suis mis à réfléchir et petit à petit à voir que c'était quelque chose. Enfin, je n'utilisais pas le mot sectaire du tout à l'époque, j'utilisais le mot dogmatique, sclérosé, rigide, entraînant des comportements répréhensibles, malhonnêtes, dangereux, etc. En fait, la prise de conscience se fait progressivement. Enfin, pour moi, c'est fait progressivement. Je le disais et je l'écrivais dans leur revue. Et puis il réagissait pas. Bon, oui, Grégoire Perrin écrit, donc comme c'est quelqu'un qui est important dans ce milieu, c'est que ce qu'il écrit est bien, jusqu'à ce qu'un ou deux se réveillent, ils disent oh là, mais va peut-être falloir le censurer parce que ça devient dangereux ce qu'il commence à dire. Et puis voilà, c'est un processus de déconditionnement très très lent, très progressif, et qui est nécessairement progressif parce que le conditionnement est très profond. Les idées qu'ils mettent en vous structurent votre manière de voir le monde de manière très profonde, surtout quand on a été élève là-dedans. Et pas seulement vos idées, mais aussi votre manière de sentir. Votre rapport aux autres, votre rapport à la société, votre rapport au monde de manière générale et aux lois est aussi conditionné par l'anthroposophie. Voilà, c'est juste quelques mots sur mon parcours. Alors, en fait, quand j'en suis sorti, j'ai contacté, c'était en 2011, j'ai contacté une association de lutte contre les dérives sectaires, l'INATFI, qui m'a dit ah ben c'est très intéressant que vous nous contactiez parce qu'on sait ce que c'est l'anthroposophie, on a bien l'idée des écoles Steiner, on sait qu'il y a quelque chose de très problématique là-dessous, mais on n'a jamais de témoignage à l'intérieur. Donc est-ce que vous pouvez nous écrire une page qui décrirait un petit peu ce que vous avez vécu, ce que vous avez compris? Bon, et moi, quand j'écris, je déroule le fil. Hein, c'est une de mes caractéristiques, je déroule le fil jusqu'au bout. Et en l'occurrence, ça a donné un document de 44 pages qui s'appelle « L'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf ». Pourquoi 44 pages? Pas parce que je suis bavard, mais parce que il me fallait décortiquer, dérouler, déchiffrer comment ils s'y prennent pour endoctriner les enfants. Comment ils y arrivent alors que cela reste inaperçu, inaperçu pour les inspecteurs de l'éducation nationale qui visitent ces écoles et qui les inspectent. Cela reste inaperçu pour les parents d'élèves qui mettent leurs enfants là-dedans et qui ne voient absolument pas que se produit un endoctrinement insidieux à l'anthroposophie. Et cela reste totalement inaperçu pour la grande majorité des élèves. Certains vont peut-être de temps en temps dire « Ouais, il y avait des choses bizarres là-dedans, c'était un peu loufoque, et puis, oh, ouais, mais bon, c'est pas une secte, hein, on nous a pas forcé, on nous a pas embrigadé, etc. » Alors que le conditionnement est tout à fait réel. Donc comment s'y prennent-ils pour que ça ne se voit pas, pour que personne ne s'en rende compte? Ce sont des écoles, c'est un mouvement pédagogique qui a 100 ans, qui va fêter ses 100 ans dans le 19 octobre. 100 ans avec un endoctrinement des enfants qui ne s'est vu de pratiquement personne. Je ne suis pas le seul à le dénoncer, cet endoctrinement. Il y a d'autres personnes dans le monde, mais généralement, si vous renseignez sur la pédagogie Steiner-Waldorf, dans les médias, elle est à la même place que les écoles Montessori, Freinet, que tout le mouvement des pédagogies alternatives. Donc, comment arrive-t-il à faire ce prodige d'endoctriner depuis 100 ans des élèves sans que ça se voit? C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a été renvoyé au cours de mes procès. Évidemment, les anthropologues disent il y a Grégoire Perra qui dit ça, moi, bon, depuis quelques-uns, ça, ils ne le disent pas trop, donc comment ça se fait que personne ne le voit? Et il fallait au moins 44 pages pour expliquer comment ils s'y prennent. Suite à cet article, premier procès, il y a 5 ans, que je gagne, enfin que procès à moi et à l'UNATFI, l'association qui avait publié mon article, c'est l'article paru en 2011, le procès a lieu en 2013, vivre 2 ans avec l'épée de Damoclès d'un procès, vous imaginez ce que c'est, et on gagne ce procès en 2013, puisque je peux établir ma bonne foi. Diffamation. Diffamation qui ne veut pas dire mensonge. Ça, personne ne le sait en droit français. Un propos diffamatoire n'est pas forcément un propos mensonger. Diffamatoire veut dire qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne ou d'une institution. Évidemment que mes propos portaient atteinte à l'honneur et à la réputation des écoles Steiner-Waldorf. Non. Ça ne se passe pas comme ça en droit français, mais on peut établir sa bonne foi. C'est-à-dire, oui, je porte atteinte à l'honneur et à la considération de telle personne ou de telle institution, mais j'ai des arguments pour le faire. Je n'ai pas d'animosité, il n'y a aucune rancœur entre moi et cette personne, ou moi et cette institution, il n'y a pas de différend entre nous. Je le fais de manière prudente et mesurée. Raisonner, c'est-à-dire raisonner, puis encore un quatrième critère, et voilà, et on gagne. Enfin, on est relaxé. Après ça. Ils n'ont pas fait appel, non. Après ça, pendant 5 ans, moi je me suis dit, en fait, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce que j'ai été dans tous les milieux. J'ai été prof, j'étais à la société anthroposophique, j'étais à la communauté des chrétiens, le culte anthroposophique chrétien dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai connu les dirigeants de Véleda, j'ai connu la biodynamie, j'ai été un petit peu partout, donc j'ai énormément de. J'ai vu comment ça fonctionnait à l'intérieur. Donc j'ai des choses à comprendre pour moi-même et à dire pour les autres. Donc j'ai continué à écrire sur un blog cette fois-ci spécifique, qui s'appelle La vérité sur les écoles Steiner-Waldorf. Et voilà, j'ai écrit, alors pas du tout, pas du tout dans le but de nuire à qui que ce soit, mais d'abord parce que moi j'en avais besoin. Pour moi, c'était une nécessité de comprendre l'univers de fou dans lequel j'avais passé 30 ans de ma vie. Et voilà. Et dans cet univers qui atteint toutes les sphères de la vie extérieure et intérieure. Donc je continue à écrire seul. Mon blog petit à petit monte en fréquentation. Et puis se produit un phénomène auquel je ne m'attendais pas, c'est que des victimes me contactent régulièrement. Des parents qui sortent d'école Steiner et qui ont sorti leurs enfants d'école Steiner avec des histoires toutes plus horribles les unes que les autres, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que les procès en cours sont en rapport avec ça notamment. Mais voilà, des victimes me contactent, me racontent leurs histoires, Moi, je ne suis pas qualifié pour les aider, mais je peux les écouter et puis leur donner des éléments d'explication, parce que les choses s'expliquent aussi par le rapport à la doctrine et à ce mouvement que j'essaie de comprendre. Et donc, voilà, ça c'est un des premiers phénomènes. Mais ça n'intéresse pas grand monde, en fait. Pendant ces cinq années de 2013 à aujourd'hui, ou en tout cas l'année dernière, cette question de l'anthroposophie n'intéresse pas grand monde. Moi, je vois, j'observe que l'anthroposophie grandit, prend de plus en plus d'importance dans la société, qu'on en parle de manière discrète, mais répétée dans de nombreux médias. La NEF, la biodynamie, les écoles Steiner, tout ça, ça apparaît régulièrement dans de nombreux médias, récemment dans Télérama, un petit encart sur les écoles Steiner qui protègent les enfants en ne les exposant pas aux écrans. Et ça passe, et le journaliste ne fait pas du tout d'investigation pour savoir ce qu'il y a derrière ces écoles, c'est-à-dire l'anthroposophie, c'est-à-dire la doctrine que je vous ai décrite. Etc. etc. Moi, je vois cette anthroposophie de plus en plus présente comme quelque chose dont la croissance est lente mais certaine, jusqu'à la nomination de Françoise Nyssen. Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture, qui est liée à l'anthroposophie, qui a des liens personnels à l'anthroposophie. Au point de monter une école Steiner dans le sud de la France, à Arles, tout en disant que ce n'est pas une école Steiner, mais en nommant comme directeur de l'école le délégué général de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France. Et ça, c'est une caractéristique de l'anthroposophie. Un anthroposophe, quand il va se présenter, il va vous dire « je ne suis pas anthroposophe ». Et je ne caricature même pas. Au procès de 2013, ce personnage, M. Henri Dahan, délégué général de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, s'avance à la barre devant le juge et mon avocat lui pose une question et lui demande « Monsieur Henri Dahan, êtes-vous anthroposophe ?»« Non, je ne suis pas anthroposophe. »« Vous êtes sûr, Monsieur Henri Dahan ?» j'ai pas ma carte de la société anthroposophique. » Oui, d'accord, mais on peut ne pas avoir la carte d'un parti et adhérer à ses idées. Ah oui, en fait, je suis anthroposophe. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver si vous suivez un petit peu l'actualité sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Les anthroposophes commencent par vous dire qu'ils ne sont pas anthroposophes. Pourquoi font-ils cela? Parce que pour l'anthroposophie n'est pas une religion, n'est pas une doctrine, n'est même pas une doctrine. C'est une démarche scientifique, donc ils n'ont pas l'impression de vous mentir en disant ça. Nous n'avons pas d'identité constituée d'anthroposophe, alors qu'ils croient à tout ce que je vous ai raconté. Pour finir sur ce parcours, l'année dernière, le GNP me demande de préparer une intervention sur la médecine anthroposophique que j'ai bien connue, puisque j'ai été patient de médecin anthroposophe, ami de médecin anthroposophe, que j'ai vu opérer les médecins scolaires dans les établissements Steiner-Waldorf. Donc je rassemble mes souvenirs, je réfléchis à mes souvenirs, je les synthétise, j'essaie de les comprendre, comme je fais toujours. Je produit une intervention et un article qui paraît sur mon blog, et plainte de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, plainte de l'Association des représentants de la médecine anthroposophique en France, alors, ça c'est pour les deux procès en cours. On verra, le verdict est mardi, pour vous dire dans quel...
On est mercredi.
Et voilà.
Vous pouvez entendre l'intervention de Grégoire Perrin, donc, à la qualité de l'Union, sur le site du cercle des esthétiques.
Merci.
C'était à Marseille,
Alors, je savais bien que je prenais des risques, mais comment dire, quand on sait ce que je sais, je ne peux pas je ne peux pas me défaire de la responsabilité morale que j'ai de témoigner de ce que j'ai vu. Alors je ne vais pas redire les choses que j'ai dites dans l'article pour ne pas avoir un cinquième procès, mais lisez l'article. Vous comprendrez pourquoi c'est une nécessité de le dire et de l'écrire et d'informer la société. Voilà, mon introduction est trop longue et je ne voulais pas que ce soit le cas, mais je vais continuer. La question maintenant qui m'a été posée, et je vous remercie de cette question que j'ai appréciée parce que j'ai toujours besoin d'avoir des questions qui me stimulent dans ma réflexion. J'ai horreur de répéter les mêmes choses. Dans le milieu anthroposophique, on passe notre temps à répéter les mêmes choses. Donc s'il y a bien un truc que je veux plus faire, c'est ça. Donc quand il y a des questions intelligentes qui me permettent de réfléchir et de ne pas répéter les mêmes choses, j'apprécie énormément. La question est l'anthroposophie, comment en sortir ? Alors je vais traiter la question en deux points. D'abord, comment en sortir au niveau personnel ? Comment un individu peut s'extraire de l'anthroposophie quand il est tombé dedans assez profondément ? Quelles sont les nécessités auxquelles il doit être confronté ? Et puis, comment en sortir au niveau sociétal, civilisationnel ? Parce que l'anthroposophie est en train de gagner du terrain et de petit à petit faire partie de notre société et même de notre civilisation. Donc je voudrais essayer de traiter ces deux questions. Et pour cela, il faut que je vous montre dans quoi vous tombez quand vous tombez dans l'anthroposophie. Pour cela, je vais vous montrer un petit élément de la théorie anthroposophique et puis après comment elle s'applique. Vous avez ici un schéma, je vais vous mettre ce schéma directement, que vous trouvez dans l'ouvrage de Rudolf Steiner qui s'appelle Nature humaine. Nature humaine, c'est l'ouvrage de base des pédagogues Steiner-Waldorf. C'est là-dessus qu'ils se fondent pour enseigner aux élèves. Alors, qu'est-ce que c'est que cette roue ? C'est une roue où vous avez en fait trois domaines qui font partie de la doctrine anthroposophique. C'est pensée, sentiment, volonté. L'être humain, pour les anthroposophes, est tripartite, c'est-à-dire que vous avez un pôle pensée, tête, un pôle sentiment, cage thoracique, et un pôle volontaire, les membres. Dans le pôle volontaire, dans la volonté, vous dormez. C'est la doctrine, il faut la respecter. Dans la volonté, vous dormez. Dans le sentiment, vous rêvez. Dans la pensée, vous êtes éveillé. Quand quelque chose entre dans le sentiment, sous la forme, c'est comme si ça rentrait en vous sous la forme d'un rêve, d'une image de rêve. Cette image de rêve, disent les anthroposophes, elle descend ensuite dans la volonté. Et puis, elle réapparaît ensuite dans la connaissance, c'est-à-dire la pensée, sous la forme, alors connaître, imager, veillant, c'est-à-dire sous forme de représentation. Les anthroposophes sont très très attentifs, pour essayer de le dire simplement, sont très très attentifs à comment une représentation que vous avez dans votre pensée peut devenir une image dans vos sentiments, puis une impulsion volontaire au niveau de la volonté, pour ensuite, revenir sous forme de représentation. Ah, voilà, je vous ai dit ça, je vous ai assommé avec quelque chose qui, on voit pas l'intérêt, c'est un élément de la doctrine. Maintenant, comment ça s'applique ? Je vais d'abord, je voulais vous présenter quelque chose, mais je vais vous parler d'un petit rituel qui a lieu dans les jardins d'enfants, les écoles Steiner-Waldorf, qui a lieu pendant les siestes. Il y a des siestes obligatoires dans les jardins d'enfants de toutes les écoles Steiner-Waldorf. C'est très très bien organisé. Chaque élève a une espèce de petite alcôve avec des rideaux. Avant la sieste, on le déshabille, ce qui est interdit. Jardinières l'enduisent d'huile Velleda, ils font un petit massage, le couchent, ils font un petit bisou, et voilà, tous les enfants sont couchés dans leur dortoir respectif. La jardinière, elle reste pendant la sieste, et elle attend 10-15 minutes. Qu'est-ce qu'elle attend ? La modification de la respiration des enfants. Parce que la modification de cette respiration indique un autre état de conscience. Au moment où elle s'aperçoit que, grosso modo, les élèves, les enfants, commencent à entrer dans le sommeil, c'est-à-dire être dans un état où ils sont... ils ne dorment pas encore tout à fait, mais ils entrent dans le sommeil. Alors elle tire les rideaux, elle commence d'abord par dire quelque chose, et puis elles vont apparaître aux enfants, déguisées, par exemple sous forme d'ange, en portant un masque, ou sous forme de lutin, et puis juste apparaître aux enfants et leur dire quelque chose. Puis elle tire de nouveau les rideaux et les enfants s'endorment. Qu'est-ce que ça fait à ces enfants ? Ils voient dans un demi-sommeil apparaître, par exemple, un ange, par exemple, un lutin, c'est-à-dire des représentations auxquelles croient les anthroposophes, mais ils les voient apparaître dans un état où ils ne savent pas, d'autant plus qu'ils sont des enfants, ils ne savent pas trop s'ils sont en train de dormir, de rêver, ou bien s'ils voient quelque chose de réel. Sauf que cette image qu'ils ont entreaperçue, elle entre en eux. Et vous voyez l'utilité de la chose. Si les enfants ont vu dans un état qui est un petit peu paradoxal comme ça, un être dont ils ne savent pas si c'était... quelque chose de réel ou quelque chose de l'ordre du rêve, ils peuvent y croire plus facilement. Les anthroposophes croient aux anges. Donc, vous voyez le lien avec ce que je vous expliquais ? C'est-à-dire, comment faire que les élèves deviennent plus tard des êtres qui croient aux anges, aux gnomes, aux lutins, etc. Une des manières, ça ce n'est qu'un exemple sur 100 autres que je pourrais vous donner, une des manières de faire en sorte qu'ils aient dans leurs souvenirs les plus profonds de la petite enfance l'idée que peut-être un ange ou un lutin leur est apparu, ça a été provoqué par ce petit rituel de la sieste. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. C'est de la manipulation, c'est de la manipulation mentale qui est... et ils savent très bien qu'il faut le faire à cet âge-là. Plus tard, l'enfant opère une distinction beaucoup plus claire entre le moment où il est éveillé et la réalité et le moment où il dort, et c'est plus possible. Donc, il faut faire intervenir ces petites scénettes rituelles au moment de la sieste du jardin d'enfant. Après, on ne le fait plus. Vous voyez ? Je vais vous montrer un autre exemple. Merci beaucoup, Sylvain. C'est une vidéo qui montre... Il n'y a pas beaucoup de son, mais ce n'est pas très grave. C'est des images que vous voyez. C'est une vidéo qui montre une cérémonie, ce qu'on appelle... la cérémonie de l'arc-en-ciel dans une école Steiner-Waldorf, c'est la cérémonie qui est faite avec tous les enfants quand ils ont leur anniversaire. Je vais en passer quelques images. Là, vous voyez, alors pourquoi la cérémonie de l'arc-en-ciel ? parce qu'on déploie un tissu qui est le pont de l'arc-en-ciel. Avec une porte, vous voyez, enfin une arche, au bout, je ne sais pas si vous la voyez bien, une arche, et voilà, tous les élèves sont autour, disposés, avec l'élève qui a son anniversaire, qui est couronné, qui a une cape, elle-même sous forme d'arc-en-ciel, et à côté vous avez sa professeure qui est vêtue entièrement de blanc. Voilà, l'élève se tient là avec sa cape, en arrière de l'arche, et puis vous voyez apparaître en haut de l'arche une espèce d'étoile filante, vous voyez. Et voilà, la cérémonie va commencer, c'est-à-dire que le professeur, la professeure, vêtue de blanc, se tient à côté de l'élève, et ils vont franchir ensemble cette arche au-dessus de laquelle il y a cette étoile filante qui passe. Il y aura de la musique, etc. Oui, c'est une petite cérémonie. Et alors bon, on pourrait se dire, bah, c'est sympathique, c'est une espèce de mise en scène bizarre, mais pourquoi pas, pour célébrer un anniversaire, c'est rigolo. Si les parents en entendent parler et posent des questions, on leur dit, bah oui, c'est une manière de marquer le fait qu'elle entre dans une nouvelle année, donc on lui fait passer un seuil, et puis voilà. Hein, on lui fait passer un seuil symbolique qu'on a matérialisé à travers cette arche, cette étoile, et voilà, on n'en dira pas plus. Sauf que, je fais une pause. Oui, non, c'est même pas la peine. Je vous explique, en fait, cette symbolique. Le professeur vêtu de blanc représente l'ange de l'enfant. Parce que, avant de naître, tout enfant, toute âme d'un enfant, avant de se réincarner, puisque les anthroposophes croient à la réincarnation, est guidé depuis le monde spirituel vers son incarnation sur Terre par son ange qui le guide à travers ce passage délicat où on passe du monde spirituel au monde terrestre, c'est-à-dire où l'on entre dans un corps humain. Pourquoi l'arc-en-ciel ? Parce que pour les anthroposophes, les arcs-en-ciel sont précisément le phénomène naturel qui sert d'intermédiaire entre le monde des anges et le monde sur Terre. Chaque fois, dit Steiner, chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel quelque part, eh bien ce sont les anges qui rassemblent les pensées humaines sous forme de couleurs et ils envoient ces pensées humaines dans le monde spirituel. Et le monde spirituel répond en envoyant les pensées des dieux sur la Terre. Donc, le pont de l'arc-en-ciel, c'est précisément l'intermédiaire entre le monde terrestre et le monde spirituel. Pourquoi la petite Anna, dans cette vidéo, porte-t-elle une couronne ? La couronne représente le roi qui, dans l'imaginaire des anthroposophes, représente le moi humain. Pour les anthroposophes, l'entité humaine est composée de différentes enveloppes, de différentes parties, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le moi et encore d'autres constituants. Donc, la couronne va symboliser le fait que c'est une âme habitée par un moi spirituel qui passe d'incarnation en incarnation, qui est en train de passer le seuil du monde spirituel vers le monde terrestre. Pourquoi une étoile filante ? Parce que cette âme habitée par un moi suprasensible est certes guidée par son ange individuel, mais aussi par l'entité cosmique du Christ cosmique, qui est symbolisée par l'étoile, c'est l'étoile des bergers de l'évangile de Matthieu. Tout ça, moi je vous l'explique, mais jamais un mot ne va être dit aux élèves, ni aux parents, ni à qui que ce soit. Et dans la pédagogie Steiner-Waldorf, on fait faire ce genre de cérémonie initiatique en continu aux enfants qui s'imprègnent de ces images sans en connaître le sens derrière, sauf par des petites allusions parfois, de temps en temps, mais ça s'imprègne en eux. Vous voyez le procédé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'école de Madame Françoise Nissen ? Ben c'est tout simple, c'est qu'il y avait, il y a eu dans cette école une cérémonie de ce type qui s'appelle la spirale de l'avant. La spirale de l'avant. C'est chaque lundi de la première semaine de décembre, dans toutes les écoles Steiner-Waldorf du monde, on réquisitionne une salle entière dont on a fermé toutes les ouvertures avec des tissus noirs. On a dessiné sur le sol avec des branches de sapin une grande spirale au centre de laquelle il y a une grande bougie. Les enfants entrent dans le noir dans cette salle. On leur donne une petite pomme dans laquelle est fichée une bougie. Et ils doivent aller, en suivant le parcours de la spirale, allumer leur bougie au contact du feu de la bougie centrale et puis revenir à l'extérieur. Pas un mot d'explication. Qu'est-ce que c'est l'explication ? C'est que, en fait, nous sommes à l'entrée de l'hiver. Il faut opérer un mouvement spiralique de rentrer en soi-même, de même que la végétation rentre en elle-même en hiver, pour aller rencontrer le Christ cosmique, symbolisé par la grande bougie, et y allumer notre moi qui est symbolisé par la pomme et la petite bougie. La pomme, c'est Lucifer, c'est l'autre puissance maléfique, il n'y a pas que Ahriman, il y a Lucifer. Donc il faut allumer son moi au contact du moi cosmique, du Christ cosmique, et puis faire le mouvement inverse pour revenir dans le monde réel. C'est un des exemples de petites cérémonies qu'on fait faire aux élèves, mais vous voyez que ces images, dont on ne leur dit pas la signification, dont on l'insinue seulement, petit à petit va entraîner une forme d'imprégnation aux prémices de la doctrine anthroposophique. Voilà, c'est de ça dont il faut sortir quand on est tombé dans l'anthroposophie et dans l'éducation qu'on reçoit dans une école Steiner-Waldorf. D'où la question, comment en sort-on ? Je ne sais pas si vous arrivez à sentir à travers ça à quel point c'est profond. À quel point ça imprègne très profondément le psychisme.
Et la ministre, oui. La ministre de l'école, qu'est-ce qui est arrivé à son école
Comme j'ai eu l'information, on pose la question, qu'est-ce qui est devenu de l'école de Françoise Nissen? Comme l'information m'est parvenue et que l'information je l'ai transmise, il y a eu un article très intéressant de Jean-Baptiste Mallet dans Le Monde diplomatique de juillet 2018 qui a raconté cette cérémonie. Et du coup, l'école a eu quelques problèmes parce que c'était pas censé être une école Steiner-Waldorf en plus.
Elle
existe toujours, il y a toujours des professeurs Steiner dedans que moi je connais, c'est des collègues. Donc l'histoire n'est pas finie. Vous avez une question ? C'est ça. D'accord. Voilà, donc c'est de ça qu'il faut sortir, c'est-à-dire...
L'inspection académique validée tout ça
avant l'article, ça posait aucun problème à l'inspecteur académique.
C'est d'une manière générale.
Les anthroposophes, ils savent faire ce qu'il faut avec les représentants des institutions. S'il y a besoin d'être tous les matins devant la porte du bureau du recteur, ils iront tous les matins devant la porte du bureau du recteur avec des croissants et un café s'il le faut. Ce sont des gens qui savent faire ce qu'il faut avec les autorités. Et il n'y avait aucun problème avant la sortie de l'article de Jean-Baptiste Mallet. Maintenant, il y en a.
Est-ce qu'il y a des parents qui déscolarisent leur enfant en cours d'année ? Parce que ce n'est pas le genre de cérémonie qu'on a dans les écoles lambda.
Les parents, à chaque fois qu'ils vont se poser des questions ou poser des questions, on va les rassurer. C'est-à-dire que, alors ça semble, je suis d'accord que ça semble étonnant. Hein. On pourrait se dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'abord, on dit aux enfants de ne pas raconter ce qui se passe à l'école, on dit aux enfants de ne pas raconter ce qui se passe, ce qu'ils vivent pendant l'école. On leur dit explicitement, c'est votre jardin secret, c'est, ça ne vous n'appartient qu'à vous, ne le criez pas sur tous les toits. Si vous n'avez pas envie d'en parler, n'en parlez pas. Donc les enfants, très très vite, ils prennent l'habitude de ne pas raconter aux parents ce qu'ils vivent à l'école. Et puis aux parents, on leur dit très souvent, c'est quelque chose qui a été dit très souvent à mes parents et que j'ai entendu très souvent, écoutez, n'intervenez pas trop dans la scolarité de votre enfant. Laissez-le vivre ses expériences, faites-nous confiance, laissez-le vivre ses expériences au sein de l'école, c'est son petit monde à lui, etc. Et très très vite, on induit chez les parents le sentiment qu'il faut faire confiance à l'école. L'école est peut-être même plus compétente que nous pour gérer nos enfants, pour les éduquer. Puis les professeurs vont aussi intervenir dans, dans ce qui se passe à la maison. Hein, vous avez une télévision, mais c'est peut-être pas très très bien. Puis c'est quoi les jouets que vous leur achetez? Des Lego, mais des Lego, vous savez, c'est du plastique. Le plastique, c'est pas une matière noble. Il vaudrait mieux des jouets en bois. Puis vous savez, on a des jouets en bois de telle marque, qui se trouve être une marque anthroposophique. Ben, ça serait mieux que vous achetiez ces jouets en bois. Et puis, comment ils s'endorment, vos enfants, à la maison? Ah, vous leur lisez pas les contes de Grimm avant de s'endormir? Puis vous leur faites pas une petite prière? Ou une prière, pas forcément chrétienne, mais un petit poème? Bah, tenez, on a un petit poème de Rudolf Steiner, là, qui est très très beau, que vous pouvez lire à vos enfants juste avant de s'endormir. Ça leur ferait pas de mal, au contraire, ça les aiderait à rentrer dans le sommeil. Et puis, vous mangez comment? Excusez-moi de poser la question, vous mangez comment? Ah, vous mangez pas biologique? Si, biologique, mais pas biodynamique? Ah, c'est embêtant parce qu'il y a moins de force dans les aliments qui ne sont que biologiques et pas biodynamiques. Votre enfant, il a besoin de force pour rentrer, pour pouvoir mieux apprendre à l'école. Donc, ça serait bien que vous achetiez des produits de la marque Demeter. Ce serait quand même mieux pour eux. Enfin, on ne vous oblige à rien, hein, mais ça serait quand même mieux pour vos enfants. Donc, voilà, je pourrais continuer la liste.
S'il vous plaît, j'interromps, parce qu'on enregistre. Si on fait la question-réponse maintenant, l'enregistrement sera immobile, parce que vos questions, on ne les entend pas, elles ne sont pas enregistrées, donc ça serait bien que vous terminiez la présentation,
oui, déjà,
et après,
on fera
des questions-réponses.
Ça marche.
Merci.
C'est une bonne question. Donc, comment on en sort? Alors, d'abord, oui, je voulais essayer de caractériser ces procédés. Moi je pense à la notion de viol psychique. Voilà, je trouve que ça mériterait d'essayer de penser la chose de ce qu'on fait aux enfants quand on parle de viol psychique. Je mentionne juste, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est vraiment important que vous le sachiez, parce que ça c'est une actualité brûlante. Cette semaine vient de paraître, pour la première fois depuis 100 ans, donc c'est une actualité extrêmement importante, des témoignages d'abus dans les écoles Steiner-Waldorf, d'abus notamment sexuels dans les écoles Steiner-Waldorf, d'abus sexuels entre élèves, mais aussi d'abus sexuels de professeurs sur élèves. C'est un article de Margot Duquesne qu'elle a publié sur son blog qui s'appelle Journaleuse. C'est extrêmement important parce que c'est la première fois qu'il y a d'abord un regroupement de victimes, de gens qui disent avoir vécu des abus ou des agressions dans les écoles Steiner-Waldorf, et que c'est publié sous la forme d'un article qui les recense, avec des cas en France, des cas dans d'autres pays du monde, très similaires les uns aux autres. Et je ne vais pas avoir... Une des ambitions de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était d'essayer d'expliquer pourquoi. pourquoi est-ce que, selon les chiffres de la Midilude, et puis selon l'expérience que j'en ai à travers les victimes qui sont venues me raconter ce qu'ils auraient vécu, pourquoi est-ce que c'est si fréquent, ou ça serait si fréquent? Je pense qu'il y a des éléments de réponse que moi je peux apporter, parce que j'y vois des liens avec la doctrine anthroposophique. Mais je vais laisser ce chapitre-là. Oui, je laisse ça. Et donc, comment en sortir? Alors évidemment, c'est une question que je ne peux pas... Comment sortir au niveau individuel? Évidemment, c'est une question qui me concerne, puisque individuellement, c'est ce que j'ai dû faire, en sortir. Il y a eu une émission sur YouTube, sous forme de podcast, que j'ai faite avec Elisabeth Fétit, qui tient une chaîne qui s'appelle Méta de choc, qui a pris 7 heures de son temps pour m'interroger sur cette question. Donc, je crois qu'on n'a pas 6 heures ni 7 heures. Donc, je vous renvoie à cette émission sur Méta de choc. Pour moi, c'était très intéressant qu'on me donne le temps d'expliquer tout ça, parce que c'est long de sortir de tout ça, et douloureux hein, aussi, bien sûr. Mais ce qui me semblait intéressant pour vous aujourd'hui, c'est d'essayer de synthétiser ça de manière un peu impersonnelle. Qu'est-ce que doit faire quelqu'un qui a été plongé dans l'anthroposophie totalement, comme moi j'ai pu l'être? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui est nécessaire pour lui pour en sortir? Première chose, il doit remettre en question ses croyances, d'une part, des croyances qui sont profondément ancrées en lui, mais pas seulement ses croyances. Il doit aussi se remettre en question. Parce que l'anthroposophie, ce n'est pas seulement un ensemble de croyances auxquelles on adhère, ce sont aussi des comportements, des manières de sentir, des manières d'être avec les autres, de vivre avec les autres, qui nous façonnent.
Selon Wikipédia, le terme comportement...
J'ai rien demandé, je ne veux pas de commentaire. Donc... donc des comportements dans lesquels on est plongé. Alors, d'abord les croyances, je vous en ai donné quelques-unes. Moi, par exemple, il a fallu, ça a été un déconditionnement progressif avec toute une remise en cause de ma façon de comprendre le monde. Je me souviens par exemple c'est en 2012, je voyage à Valencia en Espagne. Et puis j'assiste à il y a une géode là-bas et j'assiste à un exposé d'astrophysique qui nous parle des naissances d'étoiles, des pouponnières d'étoiles. Bon, pour l'anthroposophie, le cosmos il s'arrête à Saturne. Donc je me retrouve avec ce truc bizarre, je me dis mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire naître des étoiles, puisque de toute façon les étoiles sont en dehors du temps? Dans la doctrine anthroposophique, les étoiles sont en dehors du temps, dans le domaine de l'éternité. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoiles qui naissent? Il ne peut pas y avoir d'étoiles qui naissent, puisque les étoiles, c'est le domaine de l'éternel. Vous voyez, première question. Ah ouais, mais peut-être que l'idée que le cosmos s'arrête à Saturne, ça ne marche pas tellement bien que ça. Une autre fois, pour vous donner deux, trois exemples, une autre fois, je me trouve à une conférence de Pascal Pic, le célèbre anthropologue, qui, à l'occasion de sa sortie, la sortie de son film « Premiers hommes ». Et du coup, j'ai la chance de pouvoir lui poser une question, et je lui demande, mais c'est apparu quand la conscience de soi chez les hommes préhistoriques? C'était quand? Il me regarde un peu désespéré, c'est un processus, c'est un continuum, c'est pas un événement. Moi je comprenais pas. Non, mais la conscience de soi, par définition, elle ne peut être que immédiate et totale. Elle ne peut pas être un continuum. Et puis, ah merde, c'est encore une idée anthroposophique. C'est encore une idée anthroposophique. Un autre exemple, c'était assez récemment, je discute avec des amis de ce que c'est que le vivant, l'évolution, Darwin, etc. Et puis je leur dis, quand même, on voit que la vie, elle essaie de s'étendre un petit peu partout, elle conquiert de nouveaux territoires, et son projet est d'évoluer de formes de plus en plus et de plus en plus basses vers des formes de plus en plus évoluées. Et mes amis qui connaissent un petit peu la théorie de l'évolution me regardent en disant, mais Grégoire, la vie, c'est pas un projet. Le vivant, c'est pas un projet, c'est un tâtonnement. Ah, enfin, vous voyez, c'est tout des choses qui, même quand vous n'êtes pas scientifique, vous semblent évidentes. Mais moi, j'ai été façonné avec ce genre d'idées, et partout, encore aujourd'hui, à l'occasion, en fouillant dans mon esprit, je trouve des idées anthroposophiques. Merde, ils ont encore mis ça, et ça, et ça. Bon, c'est pas grave, hein, faut que je les corrige, mais c'est dans tous les domaines qui mettent ce genre de croyances. Donc ça, c'est une première condition, affronter les croyances qui ont été mises en vous sans que vous vous en rendiez compte, et puis essayer de les corriger. Et puis après, il y a corriger sa manière d'être, son comportement. J'ai listé les choses que j'ai observées. Ne croyez pas que j'étais nécessairement un monstre quand j'étais anthroposophe, mais c'est des tendances que j'ai observées. D'abord, on vit dans le mensonge. C'est-à-dire que le mensonge, le fait de tromper les gens, de ne pas leur dire tout ce que je vous ai décrit auparavant, toutes les cérémonies, etc., où on ne dit pas aux parents la véritable signification qu'il y a derrière, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est du mensonge. Eh bien, on vit dans une pratique quotidienne du mensonge. C'est-à-dire de cacher mensonge par omission ou mensonge conscient quand les volontaires, quand les parents nous posent un petit peu trop de questions. On sait qu'il ne faut pas leur dire ce qu'il y a derrière parce que ça les ferait fuir. Or, s'ils fuient, ils vont retirer leurs enfants. Or, notre école, elle va sauver l'âme de ces enfants. Donc, il ne faut pas le leur dire pour le bien des enfants. Vous voyez, il y a une phrase de Rudolf Steiner qui dit aux professeurs de ces écoles, au début, lors de la fondation de ces écoles, il leur dit « Vous devez parler aux gens et intérieurement les duper. » Il ne peut pas être plus clair. Donc, vous comprenez, quand vous avez vécu, comme moi j'ai vécu, avec des professeurs qui mentaient en permanence, qui étaient fiers de mentir, des fois qu'ils nous le disaient, hein, ah là, l'inspecteur, on lui a menti, on l'a bien trompé, etc. Ils étaient fiers de mentir et ils étaient fiers quand on mentait. Quand vous vivez là-dedans en permanence, vous êtes un menteur. Et il faut corriger ça. Parce que vous connaissez l'histoire peut-être de Jean-Claude Roman. Cet homme qui a menti pendant toute sa vie à sa famille et qui a fait croire qu'il était médecin. C'est pas évident de sortir d'un mensonge qui dure, ou deux mensonges qui durent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut, c'est un petit peu différent, remettre en question sa tendance à vivre dans le secret. Parce que quand vous êtes anthroposophe, vous avez des secrets. La doctrine anthroposophique, c'est un secret. Et il y a des secrets entre anthroposophes. C'est-à-dire que quand vous êtes anthroposophe du premier degré, vous détenez un secret par rapport à ceux qui ne sont pas anthroposophes, mais il y a des choses que vous ne savez pas par rapport aux anthroposophes qui sont dans l'école de sciences de l'esprit. Donc, vous vivez dans le secret par rapport vous vivez toujours dans le secret par rapport à quelqu'un d'autre. Vous imaginez ce que ça peut faire. Les gens qui vivent avec des secrets de famille, par exemple, Peut-être vous connaissez ce que ça fait des secrets de famille, des secrets qui durent, des secrets qu'on garde et vivre dans le secret, on peut connaître ce que ça fait comme dégâts humains. Ben ça aussi, il faut le remettre en question. Parce que quand vous êtes anthroposophe, vous devez vivre dans le secret. Remettre en question sa tendance à vivre coupé des autres. Parce que les autres, ceux qui ne sont pas anthroposophes, sont pas intéressants. C'est des gens qui ne vous comprennent pas, qui ne sont pas ouverts, qui ne sont pas, etc. Donc vous vous coupez. Les anthroposophes, ils ont un mot pour parler de ce qui n'est pas anthroposophique, ils appellent ça le monde extérieur. C'est un terme qui vient de la Bible, et ils seront jetés dans le monde extérieur où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le monde extérieur. Tout ce qui n'est pas anthroposophique, c'est le monde extérieur. Et les autres, c'est le monde extérieur. Steiner, il a écrit un livre qui s'appelle Les drames mystères, qui commence par un dialogue entre deux femmes, et une qui n'est pas anthroposophe et une qui est anthroposophe. Et à la fin du dialogue, l'anthroposophe dit à la non-anthroposophe, bon ben on n'a plus rien à se dire. On va arrêter là. On n'a plus rien à se dire. Et ça, évidemment, ça agit comme message sur les anthroposophes. Ceux qui ne sont pas anthroposophes, c'est même pas la peine de discuter avec eux. Et du coup, on se marie entre anthroposophes. On se sépare quand on n'est pas anthroposophe. Quand on est anthroposophe et qu'on est marié avec quelqu'un qui n'est pas anthroposophe, on se sépare de la personne pour aller vers quelqu'un qui sera anthroposophe. Steiner était connu comme briseur de couple. C'est intéressant à savoir. On ne sait pas grand-chose sur sa vie personnelle, mais il était connu pour ça. C'est-à-dire quelqu'un qui cassait les liens entre les gens, les liens naturels, les liens entre un mari et sa femme, entre une femme et son mari, mais aussi les liens de parents à enfants, etc. C'est une tendance profonde de l'anthroposophie. Couper les liens naturels, qu'on peut questionner, hein, mais couper les liens entre les gens. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Moi, je me souviens que je faisais ça, j'ai un petit peu honte, hein, mais je le dis, je le faisais, et un jour, il y a un ami qui n'était pas anthroposophe qui me dit, ah ouais, vraiment, tes tentatives là pour séparer les couples, c'est ridicule. Puis il me sort, ouais, c'est l'île de la tentation, mais vu ton physique, c'est sans la tentation. Et il a bien fait. Voilà, puis dernière chose, remettre en question sa tendance à vivre dans l'immoralité et dans l'illégalité. Parce que le rapport à la loi et à la morale des anthroposophes, il est extrêmement problématique. Je vous renvoie à la question des abus de l'article de Margot Ducali. Mais voilà, quand on a vécu dans un monde où l'illégalité est la norme, il n'y a même pas de notion j'ai jamais eu un seul cours d'instruction civique à l'école Steiner, jamais. Et les rapports entre adultes et enfants étaient tout sauf réglés par la loi. Je n'entre pas dans les détails, mais la loi, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui trace les frontières, les limites entre les individus. Ça sert à ça, la loi. Mais je peux vous dire que ces frontières, ces limites, je ne les ai pas connues à aucun moment, ni de manière théorique, ni de manière pratique. Donc, ça, c'est aussi une prise de conscience qu'il faut avoir. Quand on vit dans l'anthroposophie, les frontières, les limites normales de la norme entre les individus, on ne les connaît pas. Et on assiste à des comportements qui ne sont ni moraux, ni normales pour les mœurs, ni même légaux, sans se rendre compte qu'ils sont problématiques.
Donc, même sexuellement.
Ma petite amie, ma première petite copine, elle, elle venait d'une école Steiner d'Allemagne qu'elle avait dû fuir en catastrophe parce qu'elle avait eu une histoire avec son prof là-bas. Et ça, des histoires comme ça, j'en ai entendu des quantités. Je voulais vous lire cette petite phrase de Chiara Panzica, c'est une ex-anthroposophe italienne, on n'est pas beaucoup. Alors quand on trouve des ex-anthroposophes qui témoignent, c'est important de le signaler, qui dit les choses de manière remarquable, je trouve. Ce n'est pas une philosophie de la liberté, comme on le dit, parce que Steiner a écrit un livre qui s'appelle « Philosophie de la liberté ». Et du coup les anthroposophes quand ils vous abordent disent mais nous on respecte les individus, on respecte les gens. D'ailleurs Steiner il a écrit c'est une philosophie de la liberté, donc on respecte la liberté. Et Chiara le dit mieux que moi, ce n'est pas une philosophie de la liberté comme on le dit, c'est exactement l'inverse. L'anthroposophie est un chemin où la personnalité disparaît, elle est déconstruite. La manipulation est très profonde et le plus grand dommage est de se sentir libre quand on est en prison. C'est exactement ça. Elle, c'était une maman qui a mis son fils dans une école Steiner et qui, de fil en aiguille, est devenue anthroposophe en faisant la formation de rythmie. La question, comment on en sort maintenant au niveau sociétal, au niveau civilisationnel ? C'est un mouvement qui a maintenant 100 ans, qui s'est répandu partout. Moi, une des choses que je fais pour me déconditionner, c'est de voyager. En Amérique latine, en Asie, partout où je voyage, parce que le monde, je ne l'ai pas connu. Quand je voyageais parfois quand j'étais anthroposophe, j'allais dans des endroits où il y avait de l'anthroposophie. Donc il y avait la même architecture, les mêmes genres, la même nourriture, les mêmes vêtements, les mêmes façons de parler, les mêmes concepts, donc autant dire que mes voyages ont compté absolument pour rien. Donc je voyage, et à chacun de mes voyages, je ne les cherche pas, je les trouve. Il y a de la biodynamie partout, il y a des écoles Steiner partout, au Japon, au Chili, etc. On les rencontre partout, c'est un mouvement mondial, présent partout, et qui s'étend progressivement. Qui s'étend progressivement partout, qui prend de plus en plus d'importance. Comment en sortir ? Il faut d'abord faire ce constat. C'est un mouvement, comme je vous disais, qui est porteur d'un projet complet de contre-société. Jusqu'à même une nouvelle organisation de la société. Ils appellent ça la tripartition sociale. C'est un projet politique. Il prévoit une réorganisation totale de la société avec des livres de Steiner qui expliquent comment il faudra diviser la société en trois. De même que l'être humain est divisé en trois parties, il faudra diviser la société en trois parties, etc. Et comment on s'organisera. Il faudra supprimer notamment les syndicats, parce que les syndicats, c'est quelque chose de problématique, c'est un cancer social. Donc, j'espère ne jamais vivre un jour dans une société anthroposophique. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un mouvement qui infiltre de nombreux domaines de la vie économique, à travers notamment les banques, et politique, notamment à travers l'écologie. L'écologie est fortement pénétré par l'anthroposophie. En Allemagne, c'est flagrant. En France, c'est pas mal non plus. Hein, Pierre Rabhi, etc. Cyril Dion, le mouvement des colibris. Ce qui va impliquer une distinction, si elle ne se fait pas, ce sera catastrophique, une distinction entre une écologie scientifique et une écologie anthroposophique. Il va falloir être clair et ferme là-dessus. Si l'anthroposophie continue à flirter avec l'anthroposophie, ça sera une écologie spiritualiste. et pas une écologie scientifique. Enfin, il faut vraiment qu'une distinction s'opère. C'était le sens de l'article, des deux articles de Jean-Baptiste Mallet dans le Monde diplomatique, c'est-à-dire, parce qu'il a fait deux articles, il en a fait le suivant, c'était sur Pierre Rabhi en août 2018. C'est dans cet esprit-là, opérer cette distinction dans l'écologie elle-même. Comment en sortir ? Ben déjà en ayant conscience que il s'agit d'une espèce de course contre la montre pour les anthroposophes. Parce que si ce que je vous ai expliqué aujourd'hui est connu, c'est-à-dire les fondements de la doctrine, c'est-à-dire les deux livres, par exemple pour les écoles Steiner, il y a deux livres, le Stockmeyer et les conseils de Rudolf Steiner, qui dit exactement qu'il faut inculquer l'anthroposophie aux élèves. C'est dit, c'est pas Grégoire Perra qui le dit, c'est Rudolf Steiner qui le dit. Apprenez aux élèves des écoles Steiner l'existence de l'Atlantide. Voilà comment il faut faire. Donc, ces textes qui étaient cachés, qui ont été cachés pendant 100 ans, maintenant ils sont disponibles. Donc, qu'est-ce que doivent faire les anthroposophes ? Eh bien, une course contre la montre. Il faut absolument qu'ils gagnent davantage de terrain qu'ils n'en perdent par la divulgation des secrets de leur doctrine. Il faut pour eux s'étendre suffisamment pour que, quand les secrets de leur doctrine apparaissent, ils puissent dire, ils soient suffisamment pour dire, suffisamment puissants pour dire, oui, mais non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, puis bon, on n'est plus vraiment anthroposophe, et puis on a pris de la distance par rapport à Steiner, on n'y croit plus, il a dit des choses contestables, mais il a dit des trucs bien, ils s'en tirent toujours par ce genre de galipette, alors que c'est pas vrai du tout, hein. Ils y croient dur comme fer, à Steiner, mais ils savent qu'il ne faut pas le dire. Donc c'est une espèce de course contre la montre.
Vous pouvez répéter les titres ?
Les titres des deux ouvrages, c'est le Stockmeyer.
Le Stockmeyer,
c'est une compilation de tout ce qu'a dit de manière secrète Rudolf Steiner à ses disciples pédagogues sur comment organiser une école Steiner-Waldorf.
Édition.
Mais c'est pas édité justement. Le problème c'est que moi j'ai un exemplaire, mais la Fédération des écoles Steiner ne l'a pas édité.
On le trouve sur internet ?
On peut, plus ou moins. Et puis le deuxième ouvrage, c'est les conseils de Rudolf Steiner aux professeurs de la première école Steiner de Stuttgart. Là aussi, c'est là qu'on trouve la phrase vous devez parler aux gens et intérieurement les duper. Une de ces phrases. Première école Steiner de Stuttgart. Donc pareil, le tome 1 a été publié par la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, parce que quand ils se sont aperçus que j'avais commenté le tome 1 et mis des extraits sur mon blog, ils se sont dit on va peut-être pas publier le tome 2. Et ils n'ont pas eu tort, parce qu'on trouve des merveilles dans le tome 2, du genre, s'il y a des enfants retardataires, il faut les enfermer dans des petites cages à retardataires, hein, des choses qui montrent le côté ouvert et progressiste de cette pédagogie. Donc, les moyens de savoir, on les a aujourd'hui. Tous les textes secrets ne sont pas encore accessibles, j'en connais d'autres, mais on a au moins ces deux-là. Donc pour les anthroposophes, c'est une course contre la montre qu'ils sont en train de gagner. Deuxième chose qu'il faut, il faut absolument, c'est peut-être le sens de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, il faut absolument que les gens qui ont un esprit scientifique, sceptique, se coltinent les bouquins de Steiner, les critiquent, les commentent, les publient. C'est absolument indispensable. Alors, d'accord, ils sont chers. J'ai été membre des éditions anthroposophiques. Pourquoi c'est cher ? Pour pas que vous les achetiez. C'est voulu. D'accord, c'est 20, c'est 30 euros, c'est 40 euros le bouquin. C'est fait pour que vous les achetiez pas. pour que seuls les adeptes les achètent. Et ça marche, vous ne les achetez pas. Moi, j'en ai marre de prêter mes bouquins aux journalistes qui ne me les rendent pas. Enfin, je m'en fous parce que ça débarrasse ma cave. Mais bon sang, il faut faire cet effort de lire, par exemple, moi je voudrais qu'un physicien lise Lumière et matière de Steiner. Je voudrais qu'un physicien lise Chaleur et matière de Steiner. Ou le livre qu'un médecin lise tous les bouquins de Steiner sur la médecine anthroposophique. Si ça c'est fait publiquement, c'est fini pour l'anthroposophie. Parce que les monstruosités qu'il y a là-dedans, elles sont visibles. Mais personne ne fait. Et je comprends. Moi, j'ai plus envie d'y mettre le nez dans ces bouquins. Je les ai tous lus. J'ai plus envie d'y mettre le nez. Et quand vous êtes scientifique, c'est une torture de le faire.
C'est la Midilube.
La Midilube, elle a 12 personnes et puis elle est en train d'être fermée par le secrétaire de Matignon qui semblerait avoir quelques connexions avec l'anthroposophie. Ça, c'est l'actualité brûlante. Donc, lisez les bouquins s'il y en a parmi vous qui ont ce courage-là, lisez-les, critiquez-les, publiez là-dessus, que je ne sois pas le seul à le faire, ça m'arrangerait, ça m'éviterait quelques procès, serait... Voilà. Comment en sortir ? Par les témoignages et les plaintes des victimes. Ce mouvement continuera à s'étendre, tant que les gens ne témoigneront pas, et moi, les gens qui ne témoignent pas, j'en ai rencontré maintenant des dizaines, des gens qui viennent me raconter les horreurs qu'ils ont vécues, et qui après n'ont qu'une seule idée, c'est on part, on va vivre autre chose, on fuit, et on laisse tout ça derrière nous. Et je comprends, je ne leur jette pas la pierre, mais n'empêche que tant que les gens ne témoigneront pas et ne porteront pas plainte, ce mouvement va continuer. Il a 100 ans, ça peut continuer encore 500 ans, sans aucun problème, et plus. Et il faut une vigilance accrue des pouvoirs publics. Ça tombe bien, le seul organisme qu'on avait qui permettait d'avoir une vigilance là-dessus, c'est la Midilude, et le gouvernement actuel laisse la Midilude sans président depuis un an, et là, actualité de la semaine, elle va être supprimée. Remodeler de manière à être supprimé. Donc c'est grave. Voilà.